Partie 11 Principes. Il a dit, le corps du péché est le corps naturel, composé de chair, de sang et d'os, et l'âme vivante est immortelle, page 140. Et le péché demeura dans la maison jusqu'à ce que la maison soit abattue sur sa tête, ce qui est le corps naturel. Et il n'y a pas un seul saint qui soit absolument libre de la puissance du péché qui demeure en lui et agit, page 140. Plaider pour la perfection, c'est une sainteté inhérente, et servir sous les couleurs de l'Antichrist, et rendre vaine la souffrance du Christ. Celui qui soutient que les saints accomplissent parfaitement toute la loi, à tous les degrés d'obéissance et de conformité à celle-ci, dans cette vie avant la mort, a bu la coupe de l'Antichrist, page 144, réponse. Les saints, après avoir rendu témoignage que le corps du péché avait été dépouillé et qu'ils avaient été affranchis du péché, glorifièrent Dieu dans leur corps, leurs âmes et leurs esprits. Le corps du péché n'est pas la créature, car c'est lui qui fait gémir la créature, avant qu'elle ne parvienne à la liberté des fils de Dieu. C'est lui qui fait que le corps du péché, le vêtement qui vient sur la créature, le vieil homme qui vient par la transgression, le premier Adam, la lumière qui conduit hors de la transgression amène la créature dans la liberté des fils de Dieu, et ainsi, celui qui est en Christ est une nouvelle créature, et les choses anciennes passent, et le corps est le temple de Dieu, un temps. Et l'âme vivante est immortelle. Pourtant beaucoup de votre génération disent qu'elle est humaine, c'est-à-dire terrestre, oui, que l'âme du Christ était humaine, comme vous pouvez le voir dans ce livre, dans les principes de ceux qui se disent docteurs et pasteurs, dont les âmes sont dans la mort, et en qui la vie et l'immortalité ne sont pas venues à la lumière, par la puissance de Dieu qui est l'Évangile. Ainsi vous avez montré votre ignorance au sujet de l'âme. Et ceux qui rendent témoignage de la sainteté parfaite et la prêchent, sortent du royaume de l'Antichrist. Ceux qui prêchent l'imperfection portent le vêtement de l'Antichrist et ses couleurs, et sonnent la trompette de l'Antichrist, et ceux qui sont dans la justice sont dans la perfection elle-même, sans rien de mérité par l'homme dans sa volonté. Et celui qui aime Dieu garde ses commandements, et ils ne lui sont pas pénibles. Et c'était la semence qui gardait les commandements de Dieu, contre laquelle l'Antichrist, la bête, la mère des prostituées et les faux prophètes firent la guerre, comme vous pouvez le lire dans l'Apocalypse. Mais cette semence est pour vous tous une pierre pesante, la semence qui garde les commandements de Dieu, qui aime Dieu, et ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas le péché. Et le corps naturel, qui est chair, sang et os, n'est pas le corps du péché à dépouiller. On n'a jamais lu cela dans l'Écriture, que ce fut ce corps-là qu'il fallait dépouiller, car les saints avaient encore des corps après avoir rendu témoignage que le corps du péché avait été dépouillé et qu'ils avaient été affranchis du péché. Principe, il a dit, que R, F, est contre la doctrine selon laquelle le péché continue dans les pieux jusqu'à la mort, page 148. Réponse, cette doctrine du péché n'a jamais été prêchée par l'apôtre, à savoir qu'ils doivent continuer dans les pieux jusqu'à la mort. Je dis qu'ils ne continuent pas dans les pieux, car les pieux sont comme Dieu, hors du péché, ils continuent dans les impies qui ne sont pas comme Dieu. Celui qui est en Christ est au terme de la loi, des préceptes, des statuts, des ordonnances et des commandements, et il est dans la substance, la justice de Dieu. Principe. Il a dit « La lettre n'est pas une lettre morte, et elle a la vie en elle-même. Et s'il n'y a que cette lettre ou ce ministère, c'est l'épée à deux tranchants du Christ, page 153, 155. Elle sert à son dessein de sonder les cœurs. Et l'apôtre voudrait détourner les gens de la présomption d'atteindre la perfection, page 162. Et des cœurs impurs ne peuvent-ils pas se transformer en imaginant la perfection, comme le diable en ange de lumière? La lettre tue, mais l'esprit donne la vie. 2 Corinthiens 3, 6. Remarquez que l'Écriture ne dit pas que la lettre a la vie ou donne la vie, mais cet homme dit « la lettre a la vie en elle-même ». Un couteau peut tuer, mais il est mort sans vie, et certainement un couteau ne peut pas donner la vie. Il en va ainsi de l'Écriture, elle peut tuer, mais elle est morte sans vie. Il dit que la lettre sonde un cœur. Un livre ne peut pas sonder votre cœur, mais Dieu peut sonder votre cœur, et il sonde votre cœur. Cliquez ici pour voir quelques-uns des nombreux passages de l'Écriture qui attestent ce fait absolu. Réponse. Le diable, se transformant en ange de lumière, ou en une similitude, est comme tous les cœurs impurs qui s'imaginent la perfection hors d'eux, et non en eux, et qui parlent du Christ hors d'eux, et non en eux, comme le diable le fit. Mais c'était la doctrine de l'apôtre, qui prêchait Christ, l'alliance de Dieu, pour amener les gens de ce qui ne rendait rien parfait à ce qui était parfait, et il leur disait « Soyez parfaits, et d'un même esprit ». Et il parlait sagesse parmi ceux qui étaient parfaits, ainsi, il ne détournait pas le peuple de cela, mais l'y conduisait. La lettre elle-même est morte, puisqu'elle est faite de papier et d'encre. Tous les ministres des lettres et des livres écrits sur papier et encre, et qui parlent à partir de lettres de papier et d'encre, et n'ont pas reçu de Dieu ce qu'ils prêchent, sont des ministres de la lettre, et ils sont les ministres de la mort, quand bien même ils administreraient toutes les lettres écrites dans l'Écriture, et n'auraient que le vêtement de brebis, et ne produiraient pas des enfants de Dieu, mais ne feraient que des prosélytes, comme le faisaient jadis de tels ministres parmi les Juifs. Mais ceux qui étaient ministres de l'Esprit, qui a fait sortir les Écritures, avaient l'épée de l'Esprit, que les Juifs, ministres de la lettre, n'avaient pas. Ceux qui sont hors de l'Esprit, même s'ils ont toutes les Écritures qui en ont été produites, sont hors des armes spirituelles. Et ceux qui sondent le cœur, c'est ce qui a fait sortir les Écritures, ce qui a conduit tous les saints hommes de Dieu à les prononcer, c'est le Seigneur, le sondeur des cœurs. Cet esprit reconnaît toutes les paroles des Écritures de vérité déclarées par l'Esprit, mais l'Esprit était avant que l'Écriture ne fût produite. Principe. Il a dit, « Des hommes rachetés de tous les cultes terrestres, parfaitement justifiés devant Dieu, sincères dans leur sanctification, et pourtant ils sont dans la convoitise sexuelle, les tâches et les conflits », page 166. Et « La parole de Dieu ne demeure pas en ceux qui disent qu'ils n'ont pas de péché », page 179, réponse. Ceux qui sont rachetés hors de tous les cultes terrestres et sanctifiés sont rachetés des tâches, des conflits, des convoitises sexuelles, et par leur rédemption, ils viennent à rendre témoignage du royaume de Dieu qui consiste en justice, paix et joie dans le Saint-Esprit, hors des conflits, et ceux qui sont dans l'Esprit sont dans ce qui fait mourir le péché. Et la parole de Dieu rend pur là où elle demeure, ils sont sanctifiés par la parole et rendus purs. Elle vient, trouve le péché, l'ôte et rend pur, l'écrase, le coupe, le brûle, réconcilie avec le Père, dont le péché et l'iniquité avaient séparé. Principe, il a dit, l'eau sacramentelle, et le baptême par aspersion et l'eau montrent que nous sommes greffés dans le corps mystique, page 176, 178, lequel consiste en un signe de la chose signifiée, réponse. Asperger les nourrissons est un signe de votre propre fabrication, et l'eau sacramentelle, l'Écriture ne la présente pas, mais c'est une chose présumée au-delà de ce qui est écrit. Et ce signe, une tradition, ne fait pas entrer dans le corps mystique, mais en éloigne, pas plus qu'aucune chose élémentaire. Mais ce qui baptise dans le corps, c'est l'Esprit, par lequel tous deviennent un. Et cela ne baptise pas dans un corps élémentaire, mais dans un corps glorieux, le corps spirituel. Il y a des signes mensongers apparus depuis les jours des apôtres, qui sont hors de la pratique des apôtres. Vous ne pouvez rien montrer dans l'Écriture pour appuyer votre aspersion avec votre eau sacramentelle. Mais l'unique baptême, dont l'Écriture témoigne, est reconnu à sa place, et celui de l'Esprit et du feu qui brûle le péché après avoir rassemblé l'œuvre de Dieu dans le grenier. Principe, il a dit, le pain et le vin sont des institutions spirituelles, et ne sont pas charnelles en un sens opposé à l'institution spirituelle, et ce ne sont pas un simple pain et un vin charnels après l'institution du Christ à utiliser, ni un pain et un vin ordinaire. Il a dit, dans la scène du Seigneur et le corps du Christ, et c'est son sang, page 188. Et ceci est mon corps et mon sang, la parole d'un commandement est faite ceci, page 191. Et le Christ n'a pas nourri les âmes de pain de fromte et de vin rouge. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi, et faites ceci aussi souvent que vous en boirez. Selon Paul, car aussi souvent que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Cela signifie qu'en mangeant et en buvant, nous devons nous souvenir de la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il apparaisse dans nos cœurs, jusqu'à ce que nous voyions la face de Dieu, lorsqu'il apporte notre salut, lorsqu'il apporte notre vie éternelle. Cela ne fait pas référence à un rituel à accomplir lors de prétendus services de culte, mais plutôt, chaque fois que nous mangeons ou buvons, nous devons nous souvenir de la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il apparaisse dans nos cœurs. Une fois que cela se produit, nous sommes en lui, sans qu'il soit besoin de quoi que ce soit pour nous le rappeler, puisque nous vivons en lui et qu'il vit en nous. Réponse, par tout cela, en quoi êtes-vous différent de l'Église romaine? N'en avez-vous pas posé le même fondement et établi le même terrain? Le pain et le vin ne sont que du pain et du vin, des choses temporelles, des choses visibles, et peuvent devenir cendres, mais le corps et le sang du Christ ne le feront pas. Le pain n'est pas spirituel, et le vin n'est pas spirituel, tous deux ne sont que des choses vues et visibles. Celui qui mange la chair du Christ et boit son sang n'a plus faim et n'a plus soif, mais celui qui mange du pain et du vin temporel a encore faim et a encore soif. Christ a dit, « Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, et ce que l'apôtre avait reçu du Seigneur, il l'a transmis aux Corinthiens. Aussi souvent qu'il mangeait cela et buvait cela, il devait le faire en mémoire de lui, annonçant la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Mais le même apôtre dit ensuite au même Corinthien, dans sa dernière épître, « Examinez-vous vous-même. Ne savez-vous pas que Christ est en vous, à moins que vous ne soyez réprouvés ? » Et il dit, « Tandis que nous ne regardons pas aux choses qui se voient, car les choses qui se voient sont temporelles. » Ainsi le pain et le vin sont des choses qui se voient, des choses temporelles, mais les choses qui ne se voient pas sont éternelles. Or le pain et le vin ne sont que du pain et du vin, non spirituels après une prétendue consécration, c'est toujours le même pain qu'auparavant, et il n'est pas plus proche du corps du Christ après qu'ils l'ont consacré qu'il ne l'était avant. celui qui est dans la vie et la puissance de Dieu, qui donne à chaque créature son être et fait venir toute créature à l'existence, est dans la vie et la vertu de toutes les créatures, et l'être de toutes les créatures, et la sagesse de toute la création, ce qui est spirituel. Celui qui donne à chaque créature son être, la fait venir à l'existence et donne le sens et le sentiment à toutes les créatures est spirituel. Et ici l'âme en vient à être connue, et la semence Christ est son corps et son sang, principe. Il a dit, le culte de Dieu dans l'esprit se tient hors de la volonté de l'homme, et ils doivent attendre dans la lumière pour sentir l'esprit, mais que toutes les âmes perdues prennent garde à ce conseil. Et amener les gens au commandement de l'esprit est contraire à la lettre de l'Écriture, page 204. Amener les gens au commandement de l'esprit est contraire à la lettre de l'Écriture. Il y a près d'une centaine de passages de l'Écriture qui avertissent les gens de prendre garde à, d'écouter et d'obéir à la voix du Seigneur, c'est-à-dire d'obéir au commandement de l'esprit. Cet homme et la prostituée de Babylone les ignorent tous, dans un effort pour soutenir un autre Jésus, créé à partir d'un sous-ensemble de passages de l'Écriture, en ignorant des centaines d'autres qui sont en conflit, et en tordant d'autres jusqu'à l'opposé de leur sens. Leur Jésus fabriqué est sans pouvoir de leur parler, leur Dieu ne les enseigne pas, leur Dieu ne les purifie pas du péché, ne les purifie pas, ne les perfectionne pas, leur Dieu a la forme mais pas la puissance. Et ceux qui suivent ces ministres de cet autre Jésus ne se rendront pas compte de leur erreur avant de mourir, moment auquel le vrai Jésus, qui a de la puissance, leur dira « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, car je ne vous ai jamais connu. » Réponse. Tous les vrais adorateurs de Dieu, que Dieu cherche pour l'adorer, sont dans l'esprit et dans la vérité, dont le diable est hors, et dont la volonté de l'homme est hors, et dans l'esprit qui a fait sortir les Écritures, toutes les pauvres âmes en viennent à adorer Dieu correctement, à magnifier Dieu, à glorifier Dieu, à prier dans l'esprit et à se tenir dans le conseil de Dieu. Car aucune prophétie des Écritures n'est venue de l'imagination propre du prophète. Ce qui les a conduits à prononcer les Écritures était au-delà de la volonté de l'homme. Ainsi, lorsque des hommes utilisent leur propre imagination et volonté pour lire les Écritures, dont aucune prophétie n'est venue, ils ne peuvent pas adorer Dieu dans la vérité ni dans l'esprit, mais dans leur propre volonté culte de la volonté. Mais ceux qui sont dans l'esprit et la vérité qui les a conduits à prononcer les Écritures, qui ont été apprises de Dieu, le Père des esprits, et le Dieu de toute vérité, ceci n'est pas un culte de la volonté. Or, le culte de la volonté se trouve parmi ceux qui possèdent les Écritures produites par l'Esprit de Dieu, mais dans leur propre volonté, dont aucune prophétie n'est venue, et ils chantent, prient, prêchent et lisent dans leur propre volonté, qui sont hors de l'Esprit qui les a produites, ils sont donc dans un culte de la volonté, hors du culte de Dieu dans l'Esprit. De telles personnes et de telles pratiques sont en conflit avec les Écritures et ne peuvent pas s'accorder avec la lettre des Écritures. Au lieu de cela, ils se disputent sur des mots, tombant en secte et en amas à propos des mots. Mais le culte de Dieu est dans l'Esprit qui a fait sortir les Écritures, et ceux qui ont appris de Dieu, le Père des Esprits, reconnaissent toutes les Écritures à leur place et ne sont pas en conflit avec elles. Principe. Il a dit, « Jamais les psaumes n'ont été chantés comme ils doivent l'être, à moins qu'il n'ait quelque air musical ou poésie. » Page 205. Et le Saint-Esprit a établi des surveillants et des anciens sur l'Église, mais ce n'était pas direct, page 207, qu'aucun homme ne peut lire dans l'Écriture que Paul était exempt de convoitise. Il a dit, aucun homme ne peut lire dans l'Écriture que Paul était exempt de convoitise. Sans honte, cet homme cherche à justifier sa propre convoitise en essayant d'abaisser Paul au rang de quelqu'un de convoiteux, pourtant la convoitise est condamnée par Paul. Et Jude et Pierre nous disent que les ténèbres les plus noires sont réservées aux ministres qui sont convoiteux. Voici quelques déclarations de Paul au sujet de son ministère. « Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes si sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts, vous êtes honorables, mais nous, nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure même, nous avons faim et soif, nous sommes mal vêtus, battus et sans demeure certaine, et nous peinons, travaillant de nos propres mains. » Insultés, nous bénissons, persécutés, nous le supportons, diffamés, nous répondons doucement dans la paix. Nous sommes devenus comme les balayeurs du monde, le rebut de toutes choses jusqu'à ce jour. 1 Cor 4:13 Car nous ne sommes pas comme tant d'autres, qui trafiquent la parole de Dieu pour en tirer profit, mais nous parlons en Christ devant Dieu avec sincérité comme envoyés de Dieu. 2 Cor 2:17 Quel est donc mon salaire vraiment? C'est qu'en prêchant l'Évangile, je puisse offrir l'Évangile de Christ gratuitement, afin de ne pas abuser de mon droit dans l'Évangile. 1 Cor 9:18 Nous n'avons mangé le pain de personne sans le payer, mais nous avons travaillé et peiné nuit et jour, afin de ne pas être à charge à aucun de vous, non que nous n'en ayons pas le droit, mais pour nous faire un exemple à suivre. car même lorsque nous étions avec vous, nous vous donnions cet ordre, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. 2 Thessaloniciens 3:8-10. Il parle dans le contexte de ministres qui ne veulent pas travailler, ils ne devraient pas manger. Réponse. Paul a dit que la convoitise ne soit même pas nommée parmi vous, comme il convient à des saints, qu'aucun convoiteux n'entrerait dans le royaume, et il a dit, la convoitise est de l'idolâtrie. L'apôtre a vécu la vie du Fils de Dieu par la foi, a rendu témoignage qu'il avait été affranchi du corps du péché, et qu'il en avait eu la victoire, et il rend grâce à Dieu qu'il n'y avait aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Paul était en Christ, où il n'y a pas de condamnation, ce dont la convoitise est exclue. Le Saint-Esprit est sans intermédiaire et établit les officiers dans l'Église. Le Saint-Esprit est le même que celui qui était en ceux qui ont prononcé les Écritures. De même que le Saint-Esprit, qui conduit les hommes à prononcer les Écritures, établit des anciens et des surveillants dans l'Église, ceux-ci ne sont pas établis par les hommes, mais ils voient l'accomplissement des Écritures, entrent dans ce qui les accomplit et y sont. Quant à vos psaumes chantés, votre poésie, et le fait de les mettre en forme et d'une manière musicale, cela s'est élevé depuis le pape, avec les airs et les orgues. Depuis que les hommes ont dévoré l'esprit et s'en sont éloignés, ils ont établi cette poésie, ont transformé les conditions de David en mélodie, et les ont données à des gens qui ignorent les conditions de David. Les psaumes sont des chants spirituels, dont tous sont ignorants lorsqu'ils ne viennent pas de l'Esprit de Dieu qui a conduit les saints hommes de Dieu à prononcer l'Écriture. Avec cet Esprit de Dieu, tous les psaumes, chants spirituels et hymnes sont vus, lesquels ont été donnés par lui, ainsi que toutes les Écritures, et c'est là qu'est le chant dans l'Esprit. Quant à l'entretien des ministres, l'apôtre a dit, « N'ai-je pas le pouvoir de manger et le pouvoir de boire ?» Et Christ a dit, « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Cela n'a pas été dit aux païens, ni aux juifs, ni aux gentils non convertis, mais a été dit parmi les saints qui étaient une vigne, et à qui des choses spirituelles avaient été semées, et à ceux dont l'espérance les rendait participants. Mais les mercenaires et ceux qui enseignent pour un gain honteux, qui ont en vue les choses terrestres, chiens avides cherchant leur profit de leur quartier, qui dominent par leurs moyens, sont tous loin de cela, et ont été jugés par les prophètes, le Christ et les apôtres comme des esprits qui avaient pris la forme et enseignaient pour la terre, et faisaient de la terre un désert. De tels gens n'avaient pas extrait le fromme et n'avaient labouré qu'en vain, ce qui est le labourage des méchants, qui est le péché. Il y a donc une grande différence entre eux et ceux qui prêchaient l'Évangile, la bonne nouvelle, à toutes les nations, ce qui soulageait les opprimés. Car lorsque les opprimés étaient soulagés, la vie et l'immortalité venaient à la lumière par l'Évangile, le fromme était extrait, les choses spirituelles semées, la vigne plantée, le troupeau connu, le lait connu, le blé extrait. Parmi ceux-ci, certains usaient de leur pouvoir pour manger, d'autres non notés, ce pouvoir qui n'opprimait pas, qui ne faisait pas de tort. Mais vous tous qui prêchez pour les dîmes, et voulez prendre de l'argent à ceux pour qui vous ne faites aucun travail, par une loi, et les jeter en prison s'ils ne le donnent pas, et exiger le triple des dommages, vous n'apportez pas la bonne nouvelle aux nations. Au contraire, vous êtes les oppresseurs des nations, des justes, et vous n'êtes pas des aides et des soulageurs des opprimés, et ainsi vous avez manifesté votre apostasie, que vous êtes des apostats, hors de la doctrine des apôtres, et hors de l'Évangile, la puissance de Dieu, dans laquelle étaient les apôtres. Mais maintenant l'Évangile sera prêché, qui donne la liberté aux opprimés et abat tous les oppresseurs. Principe, il a dit, Dieu envoie soit par des intermédiaires soit directement, et il envoie par le ministère de l'homme comme intermédiaire, page 211. Et il a dit, ils ne prétendent pas un tel appel d'apôtre, un officier dans chaque église comme Paul, etc., page 213. Et certains sont convertis par des intermédiaires, par ceux envoyés par l'homme, avec leur appel indirect, page 214. Chez les premiers Quakers, chaque personne convertie, sans exception, avait une fonction dans le corps du Christ, assignée par l'Esprit de Dieu, de sorte que chacun servait Dieu à sa place et dans sa position. Réponse. Tous ceux qui sont convertis le sont directement par l'Esprit, sans intermédiaire. Il n'y a personne de converti sur la terre, si ce n'est par l'Esprit direct de Dieu qui fait mourir le péché. Et tout ministère envoyé de Dieu, venant de Dieu, et appelé de Dieu, là où cela leur parle, est parlé avec des paroles directement issues de l'Esprit de Dieu, car quiconque entend sa voix, c'est direct et puissant. Tout ministère de l'homme, envoyé par l'homme, ce qui est indirect, ne convertit jamais aucune âme à Dieu, car l'âme est directe, et l'indirect n'atteint pas l'âme immortelle, mais le ministère direct atteint l'âme immortelle directe, et lui prêche ainsi l'Évangile direct, la puissance de Dieu. Tous les ministres envoyés dans la puissance de Dieu, que Dieu pousse à parler à quelqu'un par la puissance de Dieu, l'Esprit éternel de Dieu, le Saint-Esprit, cela est direct, et non de l'homme, et cela engendre des enfants pour Dieu et les convertit, c'est direct, non indirect, et ils font selon ce que la puissance de Dieu les meut à faire, ce qui est direct, et cela est pour Dieu en ce lieu-là. Ils sentiront l'Esprit de Dieu en eux rendant témoignage avec cette puissance, et l'Esprit de Dieu en un autre qui leur parle. La puissance de Dieu est éternelle, là où elle meut, elle est une, et l'Esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Vous tous, depuis les jours des apôtres, qui ne prétendez pas à un tel appel que celui des apôtres, ni à avoir de tels officiers que les apôtres dans chaque église, ce que nous croyons que vous n'avez pas, vous avez montré que le Saint-Esprit ne vous a pas fait surveillant, et vous vous êtes déclarés au monde comme ceux qui, intérieurement, ont dévoré l'Esprit de Dieu. Vous vous êtes déclarés n'être que des ministres de la lettre astérisque non de l'Esprit, et ainsi n'avoir que le vêtement de brebis. Ainsi vous êtes ceux qui ont amené les peuples et les nations à être tous en tas, comme des eaux, non fait surveillants comme l'étaient les apôtres, n'ayant pas l'appel qu'avaient les apôtres, donc pas par le Saint-Esprit, pas par la puissance directe de Dieu, pas des prédicateurs de l'Évangile comme l'étaient les apôtres, qui étaient directs. Par conséquent, ces choses ont manqué, le Saint-Esprit pour vous faire surveillants, et l'Esprit dans lequel étaient les apôtres, qui auraient refroidi et apaisé tous les esprits du peuple. Faute de cela, vous êtes tous en tas à propos de l'Écriture, mais le Saint-Esprit l'ouvre de nouveau aux surveillants. Ainsi, vous qui avez intérieurement dévoré l'Esprit de Dieu, il n'y a parmi vous aucun discours pour avoir l'appel qu'avaient les apôtres et être des surveillants comme eux, nous le croyons, vos fruits ils déclarent. Mais l'Esprit, dont les apôtres rendaient témoignage, est manifesté, il vous a découvert, vous et votre Église. Gloire au Seigneur Dieu pour toujours, astérisque, ils ne sont que des ministres de la lettre, mais de misérables ministres de la lettre. Non seulement ils ignorent des milliers de passages de l'Écriture qui ne cadrent pas avec le Dieu qu'ils ont fabriqué à partir de leur petit sous-ensemble de passages, mais ils enseignent à leur troupeau que la loi est morte, donc que le péché n'importe pas, puis ils leur disent que la loi exige qu'ils donnent la dîme, principe. Il a dit, l'enseignement direct de Dieu, au moindre degré directement, est contraire à Daniel 9 et à Timothée. Et il a dit, je dois encore apprendre la promesse de l'enseignement direct de Dieu, page 216. Et les femmes sont exclues de ce genre de prophétie, 218. Il a dit, les ministres, pasteurs, docteurs, ayant la grâce de Dieu, le don de prophétie, appelés parmi les frères à une charge, pour surveiller un troupeau, comme évêques selon l'institution du Seigneur, ceux-ci ne sont pas ainsi enseignés directement, page 220. Daniel 9 parle de la prophétie de l'ange Gabriel, lui disant, ô Daniel, je suis maintenant sorti pour te donner intelligence et compréhension. Gabriel a ensuite enseigné, par l'Esprit de Dieu qui était en lui, ce qui devait arriver. Daniel lisait les Écritures, mais Daniel a été immensément enseigné par l'Esprit de Dieu. Daniel n'a pas lu, dans l'Écriture, comment interpréter les songes de Nebuchadnetsar, qui lui a dit, « Tu en es capable car l'Esprit des dieux saints est en toi. » Et Daniel n'a pas lu dans l'Écriture comment interpréter les songes du roi Belshazzar, qui lui a dit, « J'ai même entendu parler de toi, que l'Esprit des dieux est en toi, et que la lumière, l'intelligence et une sagesse excellente se trouvent en toi. » Il semble que ces rois païens avaient plus de compréhension de l'enseignement de l'Esprit de Dieu à un homme que ce prétendu ministre du Christ. Il a dit, « Je dois encore apprendre la promesse de l'enseignement direct de Dieu. » Cet homme nie de nombreux passages de l'Écriture qui promettent précisément cet enseignement. En voici quelques-uns, il est écrit dans les prophètes, « Et tous seront enseignés par Dieu. » Tout homme donc qui a entendu et a appris du Père vient à moi. Jean 6, 45. Cependant, quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, 13. Mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin que personne vous enseigne. Mais comme la même onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est vérité, et qu'elle n'est pas un mensonge, et comme elle vous a enseigné, demeurez en lui. 1 Jean 2, 27. Voici ce que dit l'Éternel, ton protecteur, le Saint d'Israël, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'enseigne pour que tu réussisses, qui te conduit par le chemin où tu dois aller. Ésaïe 48, 17. Car la grâce de Dieu, source de salut, est apparue à tous les hommes, nous enseignant à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le présent siècle avec sobriété, justice et piété. Tite 2, 11, 12. Bon et droit est l'Éternel, c'est pourquoi il instruira les pécheurs dans la voie. Il conduira les humbles dans ce qui est droit, et il enseignera sa voie à ceux qui sont modestes. Psalm 25, 8, 9. Un faux prophète n'est pas humble ni doux, il ne peut donc pas entendre les enseignements de Dieu. Cet homme connaît manifestement ces passages et les nombreux autres qui font référence à Dieu enseignant l'homme, mais non seulement il les ignore, il les contredit méthodiquement par ses paroles hautaines et ses prétentions grandiloquentes. Réponse. Tous les évêques, surveillants et officiers qui sont de Dieu sont enseignés directement, par le même esprit et la même puissance dans lesquels étaient les apôtres, et reconnus et approuvés par eux, le Saint-Esprit est direct, qui les établit pour surveiller. Et tous ceux qui sentent la grâce de Dieu, et ne la transforment pas en débauche, une permission de péché sentent ce qui est direct. Ceux qui ont transformé la grâce de Dieu en débauche, qui marchent avec outrage contre l'Esprit de grâce, et qui se font une foule de docteurs selon leur propre convoitise, se sont éloignés de la grâce directe de Dieu qui apporte le salut. Tout l'enseignement de Dieu, au moindre degré, est direct, il les amène à ouvrir des paraboles, à prononcer des paraboles adaptées à la nature qui domine sur le témoignage. Cet esprit est direct, et bien qu'ils prennent une parabole ou une comparaison indirecte, l'esprit est direct qui leur donne de comprendre correctement la parabole. Le don qui était en Timothée, qu'il ne devait pas négliger, était direct, par lui il en vint à discerner sur qui il devait imposer les mains et sur qui il ne le devait pas, et à ne pas les imposer soudainement à n'importe quel homme. Ce qui a conduit Daniel à comprendre par des écrits dans des livres était direct, et ce qui conduit à comprendre les Écritures est direct. Je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, cela est direct, et la prophétie ne doit pas être éteinte chez la fille pas plus que chez le fils, c'est une même chose chez le mâle et la femelle. Nous vous croyons, vous et vous tous qui vous êtes apostasiés de la doctrine des apôtres, dans l'apostasie, ayant intérieurement dévoré l'Esprit de Dieu, que vous avez encore à apprendre l'enseignement direct. Ainsi sont les antichrists, dressés contre la lumière dont Christ Jésus a éclairé chacun de ceux qui viennent au monde, l'alliance de Dieu dans le cœur, par elle, tous les peuples en viendront à connaître le Seigneur et à être enseignés par Dieu, de sorte qu'ils n'auront pas besoin de dire « Connais le Seigneur », principe. Il a dit « Je conclus que l'enseignement direct ne fournissait pas seulement les hommes pour la fonction de docteur ou de ministre, mais que les voies indirectes aussi », page 211. Et les Quakers pensent que c'est un mensonge contre Dieu de dire que l'Esprit est dans la lettre et l'Écriture, et qu'il est donné par elle, et ils font un argument hors de propos au sujet de l'enseignement direct, page 222. Paul contredit clairement l'affirmation de cet homme selon laquelle l'Esprit est dans la lettre tue mais l'Esprit donne la vie. 2 Cor 3, 6 réponses. Personne n'est équipé pour l'œuvre du ministère de Dieu, sinon celui qui est dans l'Esprit direct de Dieu, qui sert à administrer à l'Esprit. Nul n'est fait ministre de Dieu par un intermédiaire ou par l'indirect, mais seulement directement par l'Esprit. Car ceux qui ont l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, pour chanter dans l'Esprit ou prier dans l'Esprit, c'est direct. Tous ceux qui en sont dépourvus sont dans la connaissance terrestre, sensuelle et diabolique qui périt, cette intelligence doit être réduite à rien, et cette sagesse doit être confondue. Quant au mot « fonction », il est de vous et doit être réduit à rien. L'Esprit est direct, c'est lui qui a conduit les saints à produire l'Écriture. L'Esprit n'est pas dans la lettre, mais il était dans ceux qui l'ont produite. Ceux qui n'ont pas en eux l'Esprit qui était dans ceux qui l'ont produite, et qui lui désobéissent, sont ceux qui disent que l'Esprit est dans la lettre. Ceux qui disent que l'enseignement direct n'est qu'une crêle hors de propos, ceux qui viennent de l'Esprit qui est direct, ont dévoré cet Esprit dans leur particularité propre. Ceux-là ne sont jamais susceptibles d'engendrer des enfants à Dieu, mais ils sont des ministres de la lettre, non de l'Esprit. Et par ceux dont le diable et eux sont dépourvus, ils sont saisis, eux qui sont dans le bavardage et dans le mensonge. Principe, il a dit, Christ a pris une Bible et a prêché sur un texte, et quant aux usages, point, épreuve et motif, vous devez aller à Tite 3, 16. Cet homme prend l'unique fois où Jésus a lu l'Écriture, puis dit, il a prêché sur un texte. Il n'a pas prêché, il a lu le passage d'Ésaïe prophétisant son ministère, s'est assis, et leur a dit que ce jour-là la prophétie était accomplie, puis il les a avertis, les conduisant à tenter de le tuer. Les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean sont remplis de dizaines d'exemples où Jésus enseignait et prêchait, le tout avec des paroles qui n'étaient pas dans la Bible, sauf l'occasionnelle référence qu'il citait, mais lorsqu'il citait, il citait sans avoir les Écritures devant lui. Il a prêché dans des maisons, sur des collines, dans des bateaux, au bord des lacs, sous le portique du temple, dans des cours, tout cela sans lecture d'Écriture. Réponse, Christ, qui est venu accomplir, a pris le livre et a lu, et a dit que cela était accompli. Il n'a pas pris un texte, comme vous le faites, et n'y a pas passé à prêcher une demi-année, comme certains d'entre vous, avec 10 shillings par jour, plus ou moins, pour votre peine, mais il a dit que c'était accompli. Quant à ce passage de Tite, il n'y a pas un mot de motif, ni de point, ni d'épreuve, ni d'usage, comme vous prétendez, même si celui qui était dans la foi s'appliquait à bien diviser la parole, lui en qui était le don de Dieu qui était parfait. Cela n'a rien à voir avec votre divination de cerveau pour de l'argent que vous vendez chaque semaine, ni avec le fait de prendre un texte et d'y passer une demi-année. Vous vous êtes montrés, vous et eux, comme des novices, principe. Il a dit, bien que la justice soit opérée en nous par la force du Christ, et qu'elle se trouve en nous qui sommes sanctifiés, pourtant quant à la justification d'une personne, Paul ne voudrait pas s'y trouver pour un monde. Voir page 229. Faux Paul et d'autres recherchaient la justification de leur personne après avoir cru d'abord. Paul a dit, « Mais si, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, nous sommes nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ est-il donc ministre du péché ?» Loin de là, Galates 2, 17. Réponse, rempli des fruits de justice qui sont par Jésus-Christ, et être trouvé dans la justice du Christ, voilà ce vers quoi l'apôtre tendait, dans ce qui met fin à la loi, non dans sa propre justice. Cette justice qui est opérée en nous par la force du Christ est celle du Christ, là où la sanctification est attestée, c'est celle du Christ qui est la fin de la loi, et c'est dans cela que l'apôtre a été trouvé, et c'est pour cela qu'il a tenu bon ce qui était hors du monde, principe, et honoré tous les hommes. Et il invoque le cinquième commandement pour fléchir le genou, et dit « Enlever son chapeau n'est qu'un signe de respect ». Voir page 234. Quand Pierre entra dans la maison, Corneille vint à sa rencontre et se jeta à ses pieds par respect, mais Pierre le fit se relever. « Lève-toi, dit-il, je ne suis qu'un homme moi-même. » Acte 10, 25, 27, honorez tous les hommes. Oui, mais ne donnez pas un honneur particulier aux hommes importants. Au temps des premiers Quakers, un homme ne s'inclinait jamais devant un boutiquier. Un homme ne s'inclinait jamais devant ses serviteurs. Un homme ne s'inclinait jamais devant un fermier. Mais les ministres et les fonctionnaires du gouvernement exigeaient qu'on s'incline. C'est pourquoi les premiers Quakers ne s'inclinaient devant aucun homme, parce que c'était montrer de la partialité ou faire acception de personne, ce qui est un péché. Réponse. Honorer tous les hommes, c'est-à-dire avoir tous les hommes en estime. Tous les hommes sont tenus en estime, car Christ a éclairé tout homme venant au monde, afin que tous par cette lumière croient, et celui qui ne croit pas est condamné. Cela amènera tous ceux qui l'aiment à rechercher l'honneur qui vient d'en haut, mais s'il haïsse la lumière, il recherche l'honneur qui est en bas, celui du premier Adam dans la transgression, et cela c'est le chapeau. Mais Christ, la lumière qui éclaire tout homme, ne reçoit pas d'honneur des hommes, et la lumière du Christ que tout homme possède ne recevra pas d'honneur des hommes. Or, celui qui reçoit l'honneur des hommes est du premier Adam, loin de la lumière, dans la transgression. Adam terrestre cherche l'honneur de la terre, voilà les marques d'un incrédule. Le cinquième commandement ne parle pas de fléchir le genou. Quant à l'inclination de Jacob et à celle de David devant Saül, etc., il y a un temps où l'aîné doit servir le cadet. Quant aux inclinations de Joseph et d'Abraham devant les païens, et aux autres inclinations dont vous parlez, dans les Écritures de l'Ancien Testament, Christ est venu, lui devant qui, tout genou doit fléchir, et toute langue confesser à la gloire de Dieu, et on ne s'inclinait pas devant les anges, ni ne les adorait. Ainsi vous avez montré de quel ministre vous êtes, vous qui criez pour la flexion et l'inclination du genou. N'est-ce pas comme baiser Baal et fléchir le genou devant Baal? Or Christ est venu, lui devant qui tout genou doit fléchir. Quant au fait d'appeler les gens maîtres, vous vous êtes jetés dans cette transgression et vous vous êtes exclus d'entre les frères, car Christ a dit, « Et vous, ne vous faites pas appeler maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ, et vous êtes tous frères. » Principe, il a dit, « Jurer fait partie du culte de Dieu, page 235. » Et Christ était loin de renverser le culte de Dieu, et c'était la partie formelle d'un serment quand l'apôtre Paul disait que Dieu était son témoin, voire page 238. Il ignore délibérément les commandements explicites de Jésus et de Jacques de ne pas jurer. Réponse. Le Christ qui a dit que Dieu était un esprit, et qu'on devait l'adorer en esprit et en vérité, a dit « Ne jurez point du tout, lui qui était le serment de Dieu qui mettait fin au serment, mais il a dit dans toutes vos communications, que votre oui soit oui, et votre non, non, car tout ce qu'on y ajoute vient du mal. » Et l'apôtre, qui demeurait dans la doctrine du Christ, était si éloigné de jurer qu'il dit « Avant toute chose, mes frères, ne jurez point du tout, ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Aucun des apôtres non plus, quoique des hommes qui étaient en crêle jurassent et que leur serment mit fin à leur crêle. Ils juraient par celui qui est plus grand, c'est-à-dire le vrai serment, mais le Christ, en qui est la paix, l'alliance de paix, où les âmes viennent à être une, et les cœurs un, qui sont le vrai fardeau en lui, sont dans le serment de Dieu, la fin de tous les serments. Car Dieu, lorsqu'il ne pouvait trouver plus grand, jura par lui-même, qui ne change pas, concernant son alliance avec les hommes qui ne change pas, dans laquelle les hommes viennent à avoir la paix avec Dieu. Ainsi les hommes jurent par celui qui est plus grand, dont les serments mettent fin à leurs crêles et controverses. Mais Dieu, qui ne pouvait trouver plus grand, jura par lui-même au sujet de son Fils, l'alliance de Dieu, qui met fin aux crêles entre les hommes, et entre Dieu et l'homme, et qui est la paix sur la terre, et la bonne volonté envers les hommes. Or le serment des anges, le serment des prêtres, le serment de Jacob et de Joseph et de David et de Salomon, le Christ est la fin de tout cela, le serment de Dieu, en qui leur foi tenait, et devant qui tous les anges doivent plier et se prosterner devant lui qui a dit « Ne jurez point du tout ». Mais votre manière de jurer maintenant n'est pas comme celle des Juifs, car eux juraient par le Seigneur, non par le livre des écrits des prophètes, ils ne juraient pas non plus par les tables où la loi était écrite. Les apôtres ni les saints ne juraient non plus par les épîtres, ni par les paroles du Christ, après qu'elles eurent été écrites et consignées. Or ceci est pire que les Juifs, car eux devaient jurer par le Seigneur, de qui venait la loi, ils devaient jurer par le Seigneur, de qui les prophètes apprirent, et non par les tables, ni par les paroles des prophètes. Les païens devaient jurer par Moloch, et jurer par Baal, et ils baisaient Baal, et les enfants d'Israël devaient jurer par le Seigneur, non par des écrits ou des déclarations des prophètes ou de Moïse. Nous ne lisons pas non plus que les saints jurassent par les épîtres, ou les révélations ou Matthieu, Marc, Luc ou Jean, et qu'ils baisassent le livre. Car les vrais chrétiens qui rendaient témoignage au Christ, la fin des prophètes, la fin de Moïse plus grand que Salomon, celui par qui le monde fut fait avant qu'il fût fait, avant qu'Abraham fût, qui règne sur la maison de Joseph et de Jacob, devant qui les anges doivent se prosterner, a dit « Ne jurez point du tout ». Celui-ci est mon Fils bien-aimé, dit Dieu, écoutez-le et obéissez-lui. Principe, il dit, un croyant tient à la fois la naissance et l'avancement de sa foi et la preuve de ce qui est écrit. Et si l'écriture est une lettre morte, et que la parole dans le cœur soigne avec l'écriture, alors celle qui est dans le cœur est morte, page 246. Qu'ils disent au monde comment l'écriture est la déclaration sans contradiction, et pourtant la parole dans le cœur. Voir page 247, ils tentent de tromper encore. La parole dans le cœur n'est pas une avec l'écriture. La parole dans le cœur est infiniment plus grande que l'écriture, mais les paroles entendues dans le cœur ne seront jamais en désaccord avec l'Écriture. L'accord du moindre avec le plus grand ne fait pas du moindre un avec le plus grand. Être un, c'est être identique, pas seulement être d'accord. La parole dans le cœur est l'Esprit de Dieu. La parole dans le cœur dévoile tous les mystères de Dieu, dont aucun n'est expliqué dans l'Écriture. L'Esprit dans votre cœur vous parle des détails particuliers de votre vie, vous enseignant ce qu'il faut renier dans votre vie, vous donnant vos étapes progressives dans certains renoncements, encourageant vos réussites, vous rappelant vos faux pas, vous disant que Dieu vous aime, vous parlant du salut à venir. L'Écriture ne peut rien de tout cela. La parole de l'Esprit, la parole au-dedans de votre cœur, parle en des mots qu'elle sait que vous comprendrez totalement, de sorte qu'il n'y a aucune ambiguïté dans l'esprit de celui qui écoute. La parole intérieure parle en rappelant les expériences de votre vie pour vous aider à comprendre chaque message. En revanche, quand l'homme lit une Écriture, il utilise son esprit charnel, qui est inimitié contre Dieu, pour interpréter ce qu'il a lu. Cet esprit charnel est le même esprit qui parle, au-delà du oui et du non, de la part du malin. L'esprit mauvais lisant l'Écriture a créé 41 000 sectes de la chrétienté, chacune avec des opinions différentes sur ce que les Écritures signifient réellement. Il est clair que la parole de Dieu, qui est l'esprit du Christ dans votre cœur, n'est pas les Écritures. Il ajoute, « Un croyant tient à la fois la naissance et l'avancement de sa foi et la preuve de ce qui est écrit. » Cela ne produit qu'une foi dans les Écritures, et non la foi en Jésus, le Dieu vivant. Paul nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, laquelle parole est dans votre cœur et dans votre bouche, afin que vous lui obéissiez. C'est là la parole de la foi que nous prêchons. Rome 10, 8, 17 réponse. L'Écriture, telle qu'elle se présente, et en elle-même, est une lettre morte, mais lorsque la parole est ressentie dans le cœur qui l'a produite, alors elle est ses propres paroles. Or ceux qui sont éloignés de la parole intérieure sont dans l'esprit mort, la lettre morte, ainsi les paroles elles-mêmes ne donnent pas la vie, mais lorsque les paroles sont réveillées au-dedans, comme elles l'étaient en ceux qui les ont produites, et c'est cela qui donne la vie, et qui voit les Écritures et leur accomplissement, et alors cela connaît les Écritures qui ne peuvent être brisées, et en cela la parole Christ, les paroles prennent fin. C'est cela qui donne la vie à tous les hommes et sauve l'âme, ce que la lettre ne fait pas, telle qu'elle est en elle-même, sans ce qui l'a produite, alors elle n'est pas morte. L'auteur de la foi du croyant est le Christ, et c'est lui qui la donne. Si quelqu'un a tout ce qui est écrit, et qu'il n'est pas dans la lumière du Christ, qui est l'auteur de sa foi, il manque le fondement de Dieu qui demeure ferme, Jésus-Christ, sur lequel tous les pères et saints hommes de Dieu se reposaient, eux qui étaient dans la foi avant qu'aucune écriture fût écrite. En Christ se tenait leur foi, le fondement de Dieu, la gloire d'Israël, la lumière des gentils, c'est cela qui accomplit toutes les écritures, et met fin à la foi au salut. Les ministres de la parole entreprirent de mettre en ordre une déclaration des choses opérées parmi eux, eux qui avaient une parfaite intelligence dès le commencement, de tout ce que le Christ a dit et fait. Ainsi cette déclaration fut produite pour être lue, crue, accomplie, et pour que les gens jouissent de la chose dont elle parle. ce que les apôtres prêchaient aux Juifs et aux Gentils, la nouvelle alliance, l'unique offrande, le sang de Jésus-Christ, lui la fin du premier sacerdoce, celui qu'Abraham et David virent, dont Moïse eut la figure, et dont les prophètes écrivirent. Or ceux qui jouissent de celui dont tous ceux-ci ont parlé, qu'ils ont vu et prêché, ont la fin, la consolation des Écritures. Ici la déclaration est vue et connue, et ici la substance est possédée, et ici sont les paroles de Dieu, et ici est la parole de Dieu qui accomplit les paroles, laquelle parole était avant les paroles, dans laquelle parole les paroles prennent fin, et sont toutes récapitulées, principe. Dire que le Christ et la foi ne se trouvent pas dans les Écritures, dit-il, j'espère qu'aucun saint humble ne fondera sa foi là-dessus. Et ils exaltant le toit et le tuent en particulier, voir page 247. Il parle de saints humbles. Sa définition des saints humbles, ce sont des saints qui sont encore enfermés dans leurs péchés, qui ont des conflits, qui ont des tâches, qui n'ont jamais été instruits par Dieu, ni par sa voix ni par sa lumière, qui dépendent de l'enseignement de leurs prédicateurs au lieu de Dieu, qui jurent quand on le leur demande, et qui paient régulièrement la dîme, et qui n'ont aucune crainte de Dieu tout en péchant. De tels saints humbles pensent être favorisés par Dieu sur un point de technicité, tandis que leurs voisins païens, vivant dans le même péché, sont condamnés par Dieu. Réponse : le Christ était avant que l'Écriture fût écrite, et le Christ est la vie, qu'on ne trouve pas dans une lettre morte, et il est la fin des Écritures et leur substance. Beaucoup avaient les Écritures, et ne pouvaient y trouver la foi, ni le Christ, ni la vie. Le Christ dit aux pharisiens qu'il était la vie, l'Écriture rendait témoignage de lui, mais ils ne voulaient pas venir à lui afin d'avoir la vie, lui qui est la fin et la substance des Écritures, par qui le monde a été fait. Quant au mot « toi » et « tu », ceux qui y trébuchent montrent qu'ils n'ont jamais appris leur accidence grammaire de l'époque ni la Bible. Ainsi, à défaut du langage de l'esprit, qui enseigne à parler des paroles saines qui ne peuvent être condamnées, ils sont ignorants de la connaissance littérale, principe. Il dit « les Écritures ont été soufflées par l'Esprit de Dieu, mais nous recevons l'Esprit d'une autre manière que ceux qui ont produit les Écritures. Les Écritures furent données directement, mais ainsi les Écritures ne nous viennent pas, ni leur intelligence. Nous avons des livres et des canons et des traductions imprimées dans la langue maternelle, page 248, réponse. Malgré tous vos livres et canons, et quand bien même vous auriez toutes les Écritures imprimées dans toutes les langues du monde, si vous n'avez pas la même inspiration directe qui a produit les Écritures, vous ne comprenez pas les Écritures. Nous vous croyons que vous n'avez pas eu une inspiration directe comme eux, ni reçu l'Esprit comme ceux qui ont produit les Écritures, vous qui en avez été dépouillés. Mais quiconque connaît les Écritures de vérité, c'est par le même Esprit qu'il les a produites, avec et par celui-ci, les Écritures de vérité, les paroles excellentes, sont de nouveau connues dans l'état et la condition où elles furent prononcées. Par l'espérance, le nom de Jésus et l'écoute silencieuse, je suis témoin de révélation après révélation, suivi de révélation, principe. Ils disent l'Esprit est dans la lettre, ou dans toute l'Écriture, page 254, et ceux qui ont écrit les Écritures étaient imparfaitement saints, mais la parole de Dieu était sainte. Pour conclure, l'Esprit est dans la lettre, et il est donné par elle, l'expérience quotidienne le démontre. Et ceux qui ne reconnaissent pas la demeure de l'Esprit dans la lettre ont perdu la foi en la présence de l'Esprit, et courent à d'autres évangiles et doctrines, l'esprit d'erreur est dans toutes les doctrines des hommes qui n'ont pas l'Esprit en eux, page 255. À quel point peut-on être imparfait et rester imparfaitement saint? Selon cet homme, on peut encore être plein de convoitises, on peut jurer, on peut n'avoir jamais entendu la voix de Dieu, on peut encore être avide. Alors peut-être que le diable est imparfaitement saint selon sa définition, ou bien Hitler était imparfaitement saint aussi. L'expression « imparfaitement saint » y est un oxymore, « imparfaitement saint » revient à être seulement un peu enceinte. Notre Dieu est la sainteté parfaite comme notre Dieu, la sainteté pure comme notre Dieu, la sainteté miséricordieuse comme notre Dieu, la sainteté juste comme notre Dieu. La sainteté n'est que parfaitement sainte, car comme Paul l'a dit, ayant donc ses promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, de Corset 1 et comme Pierre a dit, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, soyez saint dans toute votre conduite, mais de même que. Une fois encore, cet homme nie l'Écriture qui déclare clairement que nous devons être saints comme Dieu est saint, et que nous devons achever la sainteté en nous-mêmes. Imparfaitement saint revient à être imparfaitement parfait, ou impie pur, ou impurement juste, ou justification non sanctifiée, autant d'états imaginaires créés par les paroles vaines des faux prophètes pour justifier la poursuite d'une vie dans le péché, et autant d'états imaginaires qui ignorent totalement les avertissements des apôtres, dont le principal est F5:5-6, car vous le savez bien, aucun impudique ou impur, ou avare qui est un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vaines paroles. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur ceux qui sont désobéissants. Réponse. Ceux qui ont produit les Écritures étaient des saints hommes de Dieu, étant mus par le Saint-Esprit. L'apôtre dit qu'ils étaient saints, et nous le croirons plutôt que nous ne croirons aucun de vous, docteurs apostats, qui dites qu'ils ne l'étaient pas. L'Esprit qui était en ceux qui ont produit les Écritures a été reçu de Dieu, le Père des Esprits, et il demeure en Dieu. Ceux qui sont éloignés de l'Esprit de Dieu au-dedans, qui a produit les Écritures, sont de ceux qui suivent leurs propres esprits, et usent de leur langue, et se saisissent des bonnes paroles, du vêtement de brebis, trompent les cœurs des simples, et leur disent « L'Esprit est dans la lettre », ce qu'aucun des saints expérimentés n'a jamais dit. Les saints parlaient plutôt de l'Esprit demeurant dans leur cœur, de la foi dans leur cœur, de la lumière dans leur cœur, de la parole dans leur cœur, de l'onction au-dedans de Dieu demeurant en eux, Christ en eux, la loi dans leur cœur, le témoignage au-dedans d'eux, la parole implantée qui sauvait leurs âmes, le don au-dedans l'homme caché du cœur, la force dans l'homme intérieur, le Saint-Esprit les mouvait, l'Esprit du Père parlait en eux, cela les conduisit à produire les Écritures. Ceux-ci n'ont jamais dit que l'Esprit était dans la lettre, comme le disent tous les rêveurs souillés, qui sont dans la séparation sensuelle d'avec l'Esprit de Dieu, et dans la voix de Caïn, de Corée et de Balaam, changeant la grâce de Dieu en dissolution, dépouillés intérieurement de l'Esprit de Dieu, seulement des loups en vêtements de brebis. Ce sont ceux-là qui ont saisi les bonnes paroles, mais trompent les cœurs des simples, en font un commerce, disent aux gens que l'Esprit est dans la lettre. Ceux-ci ont été dépouillés de l'Esprit de Dieu dans leur propre cas particulier, et ainsi ils trompent les gens, et les éloignent de l'Esprit de Dieu dans leur propre cas particulier. Mais l'Esprit qui a produit les Écritures et rendu témoignage, par lequel ils sont connus, ils ne peuvent plus tromper eux qui sont réprouvés en ce qui concerne la foi, qui se sont glissés dans les maisons avant la mort des apôtres, qui ont maintenu les gens toujours en train d'apprendre, sans jamais pouvoir parvenir à la connaissance de la vérité, entraînés par diverses convoitises. Ainsi ont-ils maintenu les gens dans l'Égypte spirituelle, Sodome et Gomorre, et ont été protégés par les magistrats et les puissances de la terre, dans le monde entier. Mais maintenant la lumière jaillit et brille, et vous êtes tous découverts. Et ainsi ils ont établi d'autres évangiles, et perdu la foi, eux qui disent aux gens, l'Esprit est dans la lettre, alors que l'Esprit et la foi étaient en ceux qui l'ont produite, et doivent être en tous ceux qui la connaissent de nouveau, et connaissent Dieu qui la donne. Principe. Il dit, celui qui est né de l'Esprit est né de la sainte parole écrite, page 257. Une parole écrite ne peut engendrer une naissance en qui que ce soit, la parole écrite tue, l'Esprit donne la vie, 2 Cor 3, 6, ce qui tue ne peut pas transmettre la vie ni la naissance. Jésus a dit, « Les paroles que je vous dis sont esprit et vie », Jean 6, 63. Donc, prenez garde à ce que vous entendez, de la mesure dont vous vous servez, on se servira pour vous, et l'on vous donnera encore davantage, à vous qui entendez. Car à celui qui a, il sera donné davantage, et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Marc 4, 24, 25. Prenez donc garde à la manière dont vous entendez, car à quiconque a, il sera donné davantage, et à quiconque n'a pas, on ôtera même ce qu'il semble avoir. Luc 8, 18, réponse. Celui qui est né de l'Esprit est né de ce qui a produit les Écritures, la parole qui était avant que les Écritures fussent produites, laquelle lui fait voir la fin des paroles, ainsi il en vient à demeurer en Dieu, de qui ceux qui ont produit les Écritures ont appris, principe. Il dit, si placer l'Écriture dans le cœur de chaque homme n'est rien d'autre que dire aux gens qu'ils ont en eux une lumière de conscience, et exciter cette lumière que tout homme en venant au monde, ils séduisent de pauvres gens, qui n'avait jamais entendu appeler cette lumière « Écriture » auparavant, page 257, réponse. Ceux qui n'ont jamais entendu l'Écriture au dehors, s'ils se tournent vers la lumière que tout homme en venant au monde, par elle ils verront le Christ, par elle ils connaîtront l'Écriture, par elle ils seront conduits hors de toute illusion, et entreront en alliance avec Dieu, par elle ils viendront adorer Dieu en esprit, et le servir, et cela est plus que la conscience. Principe, il dit, « La lumière dont Jean parle, qui éclaire tout homme venant au monde, est une lumière faible, et c'est une part du mystère d'iniquité, aussi subtile que n'importe quel antichrist, que de dire que la lumière brille dans les ténèbres, et brille hors des ténèbres, la lumière du Christ pour le salut, page 261-262. Ils disent, Christ en vous, la lumière en tout homme, est un pauvre morceau vil et misérable, page 264. Il contredit encore l'Écriture, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisie. Jean 1, 5, car Dieu, qui a commandé que la lumière resplendisse du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur le visage de Jésus-Christ. 2 Cor 4, 6, et ainsi comme nous avons entendu la voix de Dieu venant du ciel sur la montagne, nous avons la parole prophétique d'autant plus certaine la parole dans votre cœur, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. 2 Pierre 1, 19. Peut-être ne peut-il pas saisir le sens de l'Écriture à cause de ces ténèbres, qui l'empêchent de comprendre, Comme Ésaïe l'a dit de ceux qui ne saisissent pas les paroles de la Bible, plutôt à la loi et au témoignage, s'ils ne parlent pas selon cette parole, c'est qu'il n'y a point de lumière en eux. Ésaïe 8:20. Et comme Jésus l'a dit au sujet de l'œil spirituel des faux prophètes, mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes sont ces ténèbres? Matthieu 6:23 réponse. La lumière qui éclaire tout homme venant au monde, c'est le Christ, la substance, la justice de Dieu, et elle n'est pas misérable, mais tous les misérables sont hors de la lumière, et elle n'est pas faible, ce sont tous ceux qui sont hors de lui, la lumière qui sont dans l'obscurité, avec ce par quoi il les a éclairés. Tous sont dans le mystère d'iniquité, et sont des antichrists, ceux qui ne voient pas la lumière qui éclaire chacun venant au monde, là où elle brille, et là d'où elle brille hors des ténèbres. Ce sont là les vrais ministres, qui sont dans l'esprit qui a produit les Écritures, ministres du Christ intérieur, rendu témoignage et vu. Jean n'était pas antichrist ni Paul, qui a dit « La lumière a brillé dans les ténèbres » et qui a dit « La lumière a brillé hors des ténèbres » et qui a dit « C'était la vraie lumière qui éclaire tout homme venant au monde ». Or vous êtes tous ignorants des prophètes avant Jean, qui ont dit « Je le donnerai pour alliance pour lumière des gentils, et une nouvelle alliance à la maison d'Israël, et à la maison de Judas ». Notez, ici c'était tout homme. Et Jean, le plus grand prophète né d'une femme, a dit « C'est la vraie lumière qui éclaire chacun ». Jésus-Christ, lui par qui le monde fut fait avant qu'il fût fait, en qui est la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière a brillé dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi, principe. La loi écrite dans le cœur de tout homme ne condamne pas tout péché, ni ses branches, ni le péché originel, ni l'incrédulité, page 266. Il dit « dire que tout homme dans son premier état est naturel, et que tout homme dans son premier état est comme une bête, est une contradiction. Je nie partout la lumière naturelle de tout homme, mais je nie que le plus haut degré de lumière soit ici atteignable. La lumière des saints ne se voit pas tant que nous sommes sous le soleil. » Il dit qu'il sait qu'il est plus stupide qu'un homme, et n'a pas la connaissance des choses saintes, page 272. Et il dit que la lumière qui brille dans les Écritures, « Je professe n'en rien connaître », le moindre degré en est au-dessus du plus haut degré de la lumière dont est éclairé tout homme venant au monde, page 273, réponse. La lumière dont tout homme venant au monde est éclairé, était avant les degrés et met fin aux degrés, et n'est pas naturelle, car elle était avant que le naturel fût fait ou créé. Et elle ne rend pas témoignage contre le naturel, le soleil, la lune et les étoiles, mais les reconnaît en leur place. La lumière dont tout homme venant au monde est éclairé, venant du Christ le Fils, s'il n'y croit pas, elle est leur condamnation. Ce qui rend manifeste et reprend le péché, c'est la lumière, oui, tout péché, branche et racine, l'originel et l'incrédulité. Ce qui rend tout cela manifeste, c'est la lumière, et là où est cette lumière qui rend tout cela manifeste, là sont la loi dans le cœur et la nouvelle alliance écrite, la loi et l'esprit de vie qui a franchi de la loi du péché et de la mort. En croyant et en recevant la lumière dont tout homme est éclairé, ils entrent en alliance avec Dieu, ils viennent à connaître la loi de Dieu dans leur cœur, car c'est là la loi de Dieu dans leur cœur, la lumière qui éclaire tout homme. Tout homme est, dans son premier état, dans la transgression, beaucoup sont pires que des bêtes et abrutis, et ce qu'ils connaissent, ils le connaissent naturellement, comme des bêtes sans raison. Vous et vous tous, qui avez été dépouillés intérieurement de l'Esprit de Dieu, ce que vous l'avez connu naturellement, comme des bêtes sans raison, car vous vous êtes éloignés de l'Esprit qui devrait vous donner de connaître et de comprendre, et ainsi ce n'est pas une contradiction. Nous vous croyons, vous qui êtes abrutis, qui cherchez la lumière dans la lettre de l'Écriture et dites que la lumière de l'Écriture est au moindre degré, plus élevée que la lumière qui éclaire tout homme venant au monde. Malheur à vous! La lumière qui éclaire tout homme était avant que l'Écriture fût produite. Les saints qui reçoivent la lumière qui éclaire chacun reçoivent le Christ, la lumière parfaite, et reçoivent Dieu, et reçoivent le Christ la substance, la fin des degrés. Vous ne verrez jamais la lumière des saints, tant que vous regardez la lettre et que vous êtes éloignés de la vie qui était en ceux qui l'ont produite, et la lumière brillait dans les cœurs de ceux qui ont produit les Écritures, principe. Il dit « La lumière de l'Écriture est une règle permanente pour notre foi, et il y a en elle une lumière présente pour guider les hommes au salut, et ainsi ne sont pas des révélations et enseignements directs. Et la connaissance du Christ et de la vie éternelle est donnée dans la lettre, page 283. » Réponse « Ceux qui avaient les Écritures, les Juifs ne connaissaient pas le salut, et ne connaissaient pas la règle, s'étant égarés loin de l'Esprit de Dieu. » Nul ne connaît le salut, sinon par l'enseignement direct et la révélation de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est le salut. Si les hommes ont toutes les Écritures produites par Dieu, elles ne peuvent pourtant pas, d'elles-mêmes, rendre les hommes sages à salut sans la foi, dont le Christ seul est l'auteur, lui qui est la substance de ce dont l'Écriture parle, et ainsi elles ne peuvent pas, par elles-mêmes, guider les hommes au salut. Les Écritures ne sont pas non plus une règle de foi, mais le Christ est l'auteur de la foi, et l'Esprit est la règle qui les a produites, et tous ceux qui les ont et ne sont pas dans le direct ne les connaissent pas, ni l'Évangile. Nul ne connaît la vie éternelle ni le Christ, qui est l'auteur de la vie et de la foi, qui était avant l'Écriture par les Écritures, sinon lorsqu'ils entrent dans la vie où étaient ceux qui les ont produites. Là se trouve la vie, le Christ se trouve, le Christ est vu, lui par qui le monde fut fait avant qu'il fût fait, car la vie était en ceux qui ont produit les Écritures, par laquelle ils connaissaient Dieu et la vie éternelle, et le Christ le Sauveur à Abraham, les prophètes et Moïse, ainsi la vie doit être en tout maintenant, avant qu'ils ne connaissent l'Écriture ou le Christ ou Dieu. Principe, il dit, si la lettre déclare l'accomplissement du Christ, alors nous ne devrions avoir besoin de connaître du Christ rien de plus que ce qui, pour la substance, est dans les Écritures, alors il n'y a pas besoin d'enseignement direct, page 284. Il dit, de nouveaux apôtres et une doctrine découverte d'une justice en eux qui est leur justification. Cela est comme les meneurs des Juifs parmi les Galates, page 286. Et le salut qui doit être accompli avec crainte et tremblement n'est pas le même que celui qui faisait trembler Moïse et David, Habacuc et Paul, page 287. Selon l'Écriture, l'Écriture n'est pas le moyen d'apprendre à connaître Dieu. Selon Rome 1, 19, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté en eux, car Dieu le leur a montré, l'homme n'apprend sur Dieu que par révélation. Le Père n'est connu que par révélation, le Fils n'est connu que par révélation. Sans révélation, l'homme ne sait rien de Dieu. Réponse. La puissance de Dieu est une, celle qui renversa Paul, fit trembler Habacuc et Moïse et David par laquelle tous cela vinrent à connaître le Christ, laquelle puissance quiconque y entre, et dans son infinité relève la semence qui est le Christ par laquelle le salut est connu, et accompli avec crainte et tremblement. Quand vous viendrez tous à connaître cette puissance qui opère le salut avec crainte et tremblement, vos reproches seront mis de côté, vous qui reprochez ce dont le salut est accompli avec crainte et tremblement. La justice intérieure et la sanctification intérieure est une doctrine nouvelle pour vous, qui avez été intérieurement dépouillés de l'Esprit de Dieu depuis les jours des apôtres, et ainsi de l'Esprit de foi, de l'ouïe de la foi, comme ce qui entraînait les gens vers la circoncision au dehors s'était éloigné de l'ouïe de la foi au dedans, par laquelle ils auraient dû être justifiés. Ainsi ceux qui sont venus à l'ouïe de la foi sont venus à la justification et à la sanctification au dedans, et ne regardent pas à la circoncision et au baptême au dehors. Ainsi c'est une ancienne doctrine, et non nouvelle, sinon pour vous, apostats. Quoique les Écritures déclarent la plénitude du Christ, si les gens ont toutes les Écritures, qui parlent et déclarent sa plénitude, et vous dites que vous n'avez pas besoin de connaître du Christ davantage que ce qui, pour la substance, est dans les Écritures, et ainsi vous n'avez pas besoin d'enseignement direct, nous vous croyons, nul ne connaît la plénitude du Christ sinon ceux qui viennent aux enseignements directs. Vos bouches peuvent être pleines d'Écritures, et vous pouvez user de vos langues au sujet des paroles des saints, et courir ça et là, et le Seigneur ne vous a jamais envoyé, disant, ainsi dit le Seigneur, chapitre et verset, et il suffit que l'Écriture parle de sa plénitude, pourtant je dis que ni vous, ni personne sur la terre ne pouvez jamais connaître sa plénitude, sinon en venant à la lumière dont le Christ vous a éclairé, dans chacun de vos cas particuliers, même si vous aviez toutes les Écritures. Car ceux qui connaissaient la plénitude du Christ, et ceux qui ont produit les Écritures, avaient l'Esprit de Dieu en eux, ainsi faut-il que quiconque les connaît de nouveau et les connaît, l'est aussi. Principe. Il dit « Si les Écritures sont une règle pour toi et tu, alors c'est une règle pour le respect des supérieurs, et garder son chapeau montre l'orgueil du cœur et un esprit de mensonge. » Il dit « Ils n'ont pas une croissance jusqu'à la perfection dans cette vie, mais un effort en avant, page 290. » Et il dit « Les prophètes prenaient des textes et suscitaient des motifs. » Et il dit « Celui qui ne croit pas nos points d'après l'Écriture sera damné, il doit lui dire de la part du Christ, page 299. » Les Quakers refusèrent la coutume de l'époque, enlever leur chapeau, mais seulement devant les hommes importants. Les hommes gardaient leur chapeau pendant leur culte, mais l'enlevaient en présence de personnes importantes. Ainsi, les Quakers furent commandés par Jésus de refuser cet honneur du chapeau aux hommes, mais les Quakers enlevaient leur chapeau dans la prière. Ils transférèrent donc l'honneur d'enlever le chapeau de l'homme à Dieu. Cela mit les gens en fureur, particulièrement les juges, qui envoyèrent beaucoup de Quakers en prison pour avoir refusé d'enlever leur chapeau dans leur salle d'audience. Il dit, « Celui qui ne croit pas nos points d'après l'Écriture sera damné, il doit lui dire de la part du Christ. » Cet homme admet qu'il n'a jamais entendu la voix de Dieu ni reçu d'enseignement direct, donc il ment quand il dit, « Il doit lui dire de la part du Christ. » Par ce mensonge, il tente d'effrayer les gens afin qu'ils acceptent ses points d'après l'Écriture. « Quiconque admet n'avoir jamais entendu la voix du Seigneur vient d'admettre sa séparation d'avec Jésus, et la vérité selon les Écritures, mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Jean 10, 27 Quiconque est de la vérité entend ma voix. Jean 18, 37 Réponse. Ce qui s'élève contre toi et tu, et contre le chapeau, montre l'orgueil de leur cœur, et sont hors de l'humilité, cherchant un honneur terrestre, mais avant l'honneur, il y a l'humilité. Non, l'Écriture n'est pas une règle pour faire acception de personne, pas plus que la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui font acception de personne sont hors de la foi, et la loi les convainc d'être des transgresseurs et des auteurs de péché, et ainsi hors de la loi et de la foi. Et David a vu la fin de toute cette perfection, il avait donc dépassé sa croissance lorsqu'il en vit la fin. Et les Écritures, et le Christ, vous ne les connaissez pas, vous qui n'êtes pas venus aux enseignements directs, et qui n'en avez pas besoin, vous qui dites qu'il suffit que l'Écriture déclare la plénitude du Christ. Et les prophètes ne prenaient pas des textes pour en tirer des motifs, des applications et des raisons, et ne s'y attardaient pas une demi-année, et ne les vendaient pas pour de l'argent, comme vous le faites maintenant depuis les jours des apôtres, dans l'apostasie. Mais maintenant, je suis venu pour raisonner avec vous, et vous aurez une part, une récompense selon vos œuvres, et je vous tuerai avec l'épée, les paroles de ma bouche, dit l'agneau. Et vos poings, et vos raisons, et vos imaginations que vous tirez de l'Écriture ne servent qu'à conduire les gens sous la condamnation, et à les éloigner de l'enseignement direct, et de la lumière qui éclaire tout homme venant au monde. Et le sang de James Parnell, qui est mort en prison, cet homme juste, son sang est sur vous, et il sera sur vos têtes étincelant, et vous n'en sortirez jamais, mais vous le reconnaîtrez. Et l'Esprit de Dieu abaisse tous les cœurs orgueilleux et hautains des hommes, par lui, les gens sont amenés dans l'unité avec Dieu et les uns avec les autres. Et le premier jour de la semaine, que vous appelez le sabbat, vous ne l'avez jamais lu dans les Écritures comme un commandement strict parmi les apôtres. Principe. Et le magistrat n'a pas à ajuster les lois à la lumière dans la conscience de chaque homme. Encore, si le magistrat est dans la lumière, et discerne la pensée du Christ, et comprend sa loi, doit-il contraindre toute la nation, et la République à venir à la pratique de sa lumière ? Page 308. Réponse. Le magistrat du Christ, un magistrat uni au Christ est l'aide gouvernementale pour lui, il est dans la lumière et la puissance du Christ, et il doit soumettre tout sous la puissance du Christ, dans sa lumière, sinon il n'est pas un magistrat fidèle. Ces lois ici sont en accord et correspondent à ce qui est de Dieu en tout homme. Quand les hommes agissent contrairement à cela, ils font le mal. Ainsi il le magistrat est une terreur pour ceux qui font le mal, discerne le précieux et le juste du vil, et c'est une louange pour ceux qui font le bien. Principe. Il dit, les Écritures sont la parole prophétique plus certaine, qui brille dans le cœur obscur jusqu'à ce qu'il soit éclairé par la loi. Et la lumière de tout homme n'est que les lueurs de la loi, et non de la lumière de l'Évangile, et c'est la voix de l'esprit d'incrédulité qui a dit que l'esprit et la puissance ne sont pas dans la déclaration, voire son appendice. Car le Dieu de ce monde, Satan, a aveuglé l'esprit de ceux qui ne croient pas, afin que la lumière de l'Évangile glorieux du Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille pas en eux. 2 Corinthiens 4, 4 Mais cela est maintenant manifesté par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a aboli la mort et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. 2 Timothée 1, 10 Et nous avons entendu cette voix venue du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne. Et ainsi nous avons la parole prophétique d'autant plus certaine la parole dans votre cœur, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. 2 Pierre 1, 18-19, note. La parole prophétique est comme une lumière qui brille dans un lieu obscur, vous devez y prêter attention et lui obéir, écouter, prendre garde, et si vous le faites, alors Dieu fait apparaître une étoile glorieuse, qui est le Christ, et dont la lumière vous donnera la connaissance de la gloire de Dieu sur le visage du Christ Jésus. Au début, nous sommes tous dans les ténèbres, mais à mesure que nous obéissons à la parole prophétique entendue dans notre cœur, le Seigneur nous change progressivement, jusqu'à ce que la lumière apparaisse, commençant comme un vacillement, augmentant jusqu'à devenir plus brillante que le soleil, comme une étoile qui se lève dans votre cœur, laquelle étoile est Jésus ? Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les églises. Je suis la racine et la postérité de David, et l'étoile brillante du matin. Rêve 22, 16 Mais les faux prophètes veulent nier cette référence claire au Christ, la parole intérieure, qui, lorsqu'on y prête attention et qu'on lui obéit, conduit à une plus grande mesure du Christ, la lumière, tant de lumière que c'est comme une étoile brillante, ils veulent nier cela comme lumière et prétendre que la parole prophétique est l'Écriture. Ils ont même dit que l'Écriture est une parole plus certaine que d'entendre la voix venant du ciel que Pierre, Jacques et Jean ont entendu, laquelle voix disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, croyez-le et obéissez-lui. » Luc 9, 34-35. Note, la voix du Père n'a pas dit « Étudiez vos Écritures, dépendez des Écritures, les Écritures sont sûres. » Dans les deux versets suivants, Pierre nous rassure que la parole prophétique que nous entendons et à laquelle nous devons obéir est cette même parole prophétique que les saints hommes de Dieu ont reçue du Saint-Esprit. Sachant tout d'abord ceci, aucune prophétie de l'Écriture ne peut jamais venir de l'imagination propre du prophète. Car la prophétie autrefois ne vint pas par la volonté de l'homme, mais de saints hommes de Dieu parlèrent étant mus par le Saint-Esprit, et ainsi la parole prophétique que vous entendez vient aussi du Saint-Esprit, 2 Pierre 1, 20-21 réponse. L'Esprit et la puissance étaient en ceux qui ont produit la déclaration, mais beaucoup ont la déclaration et manquent de l'Esprit, et manquent de la puissance comme les pharisiens. Comme vous tous apostats dépouillés intérieurement de l'Esprit de Dieu, vous avez eu la déclaration, mais n'y avez pas trouvé la puissance ni l'Esprit, et ainsi êtes dans l'incrédulité, et tous en désordre à son sujet. Car si vous y aviez trouvé la puissance et l'Esprit, vous auriez été depuis longtemps tout saints, et paisibles au sujet de la religion, oui, toute la chrétienté aurait été dans la puissance, et dans l'Esprit, et dans le lien de la paix, et dans la communion les uns avec les autres, et avec les Écritures, et avec l'Esprit, et avec Dieu. Et la lumière, qui éclaire tout homme venant au monde, si tout homme est dans la lumière qu'il a éclairée, il sentira la parole de prophétie, il sentira la lumière briller dans son cœur, il sentira l'étoile du jour s'y lever dans son cœur, il verra qu'aucune prophétie des Écritures ne vint par la volonté de l'homme, mais que de saints hommes de Dieu les ont prononcées. Il verra que beaucoup peuvent avoir les Écritures, et pourtant éteindre l'Esprit et mépriser les prophéties, il verra que l'Écriture n'est que la lettre déclarée par l'Esprit de prophétie, par les prophètes, et par l'Esprit de Dieu dans le Fils, et dans le reste des apôtres. Et la lumière qui éclaire chacun est la fin de la loi et de toutes les lueurs, et elle est la lumière de l'Évangile. Et nul ne connaît l'Évangile, la puissance de Dieu Jésus-Christ, sinon par la lumière qui vient de lui. Ici chacun vient à son réconfort particulier. C'est la voix de l'incrédule qui, comme les pharisiens, pense avoir la vie dans la lettre, et ne veut pas venir à Christ la vie, la substance des Écritures, mais se bouche l'oreille à la lumière de Dieu en lui, principe. Il dit « Que tous sachent que l'œuvre intérieure n'est pas le fondement et l'acquisition de la vraie paix, et que Dieu est plus content de ce que le Christ opère au dehors pour eux, que de ce qu'il opère au dedans d'eux. » Et ce dont Pierre parle, qui avait échappé aux souillures du monde par la connaissance du Christ, oui, pur, et pourtant dans l'état naturel, au commencement et à la fin, voire appendice. Comment le Christ peut-il faire une œuvre au dehors pour eux, quand le Christ nous dit que ce qui nous souille est dans nos cœurs, car c'est du dedans, du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les vols, l'avarice, la méchanceté, la tromperie, la débauche, le mauvais œil, le blasphème, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Marc 7, 21-23. Le Christ appelle à un changement de cœur, ce qui est une œuvre au-dedans de l'homme. Réponse. Ceux qui ont échappé aux souillures du monde par la connaissance de Jésus-Christ, et qui sont purs, sont sortis de l'état naturel, car ils se sont échappés de l'état dans lequel ils étaient d'abord. Et ceux qui témoignent de leur sanctification, et de leur justification opérée au-dedans d'eux, témoignent par cela qu'ils plaisent à Dieu, par la foi dans le sang du Fils de Dieu. Or ils ne sentent ni la consolation ni le bénéfice, sinon par la foi de Christ Jésus, l'unique offrande en laquelle Dieu prend plaisir, qui est agréable, qui est l'offrande de Christ. Son sacrifice, sa chair, son sang, sa vie, son esprit doivent être manifestés et reçus au-dedans, avant qu'ils ne parviennent à la justification, à la sanctification et à la rédemption, et au service de Dieu dans la vie nouvelle. Et en cela Dieu est glorifié, croire au Fils unique de Dieu, et ici il honore le Fils en croyant en celui que le Père a envoyé. Ainsi ceux qui ne sentent pas Christ en eux sont des réprouvés. Quant au reste de vos mensonges et calomnies, et de vos querelles et confusions, vous qui voudriez dresser l'un contre l'autre, tous les esprits froids, tranquilles et sobres verront votre confusion, et ainsi vos paroles seront votre propre fardeau, et vos mensonges retomberont sur vous-même. Nul homme n'établira Sion, ni n'y posera une pierre, telle qu'il est en lui-même, mais les élus composent Sion, et les pierres vivantes, où la pierre élue et précieuse est au milieu, qui est Christ posé en Sion. Toutes vos voix babyloniennes, vos prétentions et vos actes, et tout le reste de vos frères, et ceux qui sont engendrés du même esprit que la grande prostituée, qui intérieurement a ravagé loin de l'Esprit de Dieu, vous qui depuis longtemps portez sur le dos des vêtements de brebis, vous qui venez tous d'un même tronc à piste, vous êtes maintenant compris par l'Esprit de Dieu, vous avez tous intérieurement ravagé loin de lui, par lui vous êtes tous sondés. La prostituée a été parée des vêtements de brebis, et elle a eu pouvoir sur les tribus, les langues, les peuples et les nations, et sur des multitudes, et elle a entraîné des nations dans des eaux, et des peuples, des langues et des multitudes comme des eaux, lesquelles ont bu le sang des prophètes, des saints et des martyrs. Ainsi vous flattez les autorités de la terre, et vous vous courbez sous elles, de la bouche desquelles sortent les esprits impurs. Mais ce qui s'est levé et se lève, et qui monte dans le peuple, ce dont vous avez tous ravagé loin et d'où vous êtes partis, c'est par cela même que vous êtes tous compris. Le jugement de la grande prostituée est venu, et ses vêtements seront arrachés, et ce dont vous avez tous ravagé loin, grands et petits, répondra au jugement, et il est placé au-dessus de vous tous. Car ceux qui, intérieurement, ont ravagé loin de l'Esprit de Dieu, ont pris les vêtements de brebis, mais se sont tournés contre les saints, et la femme s'est enfuie au désert, mais maintenant l'agneau et les saints remporteront la victoire. Bien que maintenant la bête et les faux prophètes et la mère des prostituées et le diable et les rois de la terre fassent la guerre contre lui, celui qui était mort et vivant et vit au siècle des siècles, est l'agneau immolé dès la fondation du monde, qui chevauche en vainqueur et pour vaincre, qui abat et tue avec l'épée, qui sont les paroles de sa bouche. Maintenant malheur au dragon et aux faux prophètes, à la bête et à la mère des prostituées, et à ceux qui adorent la bête, les esprits impurs, malheur, coupe, tonnerre, plaies et tremblements de terre sont venus et viennent sur vous. Il est manifesté et venu, celui qui foule seul le pressoir hors de la ville, lui qui est le merveilleux conseiller, le prince de la paix, dont le nom est appelé la parole de Dieu. Avec lui, les saints chantent la victoire sur la bête, et sur les faux prophètes, la grande prostituée, la mère des prostituées, Babylone et les antichrists. Babylone est tombée. L'agneau et les saints auront la victoire. Dans le corps de la sorcellerie vous êtes trouvés, comme tous ceux qui lisent votre livre, qui sont dans l'esprit de discernement, peuvent le voir, dont le corps est racheté, et règne sur le vôtre dans la gloire et la victoire. Le livre de Ralph Farmé, intitulé « Le grand mystère de la piété et de l'impiété », dans lequel se trouvent les principes suivants. P. Il a dit « L'âme est d'une nature immortelle et spirituelle. Dieu a fait l'homme pour le servir dans une forme de culte extérieur et visible. » Réponse : Christ a dit « Dieu est esprit ». Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité, et l'esprit est-il dehors et visible, c'est dans l'esprit, qui fait plier tout ce qui est contraire, que Dieu est adoré. D'autres qui disent être des docteurs, comme vous pouvez le voir dans ce livre, disent que l'âme est humaine, oui, l'âme de Christ, et vous dites que l'âme de l'homme est immortelle et d'une nature spirituelle. Or l'âme qui donne le sens et le sentiment de toute chose est spirituelle et immortelle, comme elle procède de Dieu, qui est dans la main de Dieu, dont Christ est l'évêque. Le noble principe qui la guide est la lumière et la vie. Pourtant l'âme peut être détruite par Dieu, craignez celui qui peut détruire et l'âme et le corps dans la géhenne. Matthieu 10, 28 principe. Il a dit, « La parole éternelle éclaire tous les hommes par la lumière commune de la nature. Cet homme ne peut accepter une lumière spirituelle. » Il nie les Écritures qui montrent que la lumière est totalement spirituelle. Alors Jésus leur parla de nouveau, disant, « Je suis la lumière du monde. » Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, 12 Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous deveniez des enfants de lumière. Jean 12, 36 Dieu est lumière. 1 Jean 1, 5 Réponse. La lumière par laquelle tout homme venant dans le monde est éclairé n'est pas naturelle. Car la lumière était avant que quoi que ce soit fût créé, et toutes les choses qui furent faites par elle. Elle éclaire tout homme venant dans le monde, quand bien même il serait dans le premier Adam, dans le péché et la transgression. Cette lumière lui rend manifeste ce qui vient de Christ, le second Adam, le chemin vers le Père, qui fut glorifié avec le Père avant que le monde fût. Il est venu restaurer ce que le premier avait perdu. Et celui-ci est le fils obéissant et l'autre le désobéissant, lequel fait venir la mort. Ainsi les fils d'Adam dans la transgression peuvent dire, et disent, que la lumière par laquelle Christ, le second Adam, le rédempteur et restaurateur, le salut jusqu'aux extrémités de la terre, éclaire chacun venant dans le monde est naturel. C'est donc tromper le peuple, pour le tenir éloigné de la lumière, par laquelle ils pourraient tous voir leur salut et venir à recevoir Christ, par qui ils pourraient avoir le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Principe, la mesure et le degré doivent être hors de vous. Et c'est une tromperie de parler aux gens de Dieu au-dedans, et de Christ au-dedans, et d'une parole au-dedans, et qu'ils sont au-dehors, ce qu'il appelle un mystère de pure confusion et de vacuité, page 27. Maintenant ils dénigrent l'Écriture, accusant l'Écriture qui appelle le mystère une gloire, de n'être en réalité qu'un mystère de pure confusion et de vacuité, à qui Dieu a voulu faire connaître quelles sont les richesses de la gloire de ce mystère parmi les païens, qui est Christ en vous, l'espérance de la gloire, Col 1, 27. Pour cet homme, le mystère de Christ au-dedans, l'espérance de la gloire, le trouble dans son vide de Christ au-dedans, mais pas pour ces âmes douces et humbles qui écoutent leur Sauveur au-dedans d'elles, qui entendent ses enseignements, ses encouragements, ses convictions, son amour pour elles, et sa parole implantée, rejetez donc toute souillure et tout excès, surabondance de méchanceté, et recevez avec douceur la parole implantée, qui peut sauver vos âmes. Jacques 1, 21. Réponse. Les degrés et les mesures étaient dans les saints qui ont proféré les Écritures et qui connaissaient les Écritures, mais ceux qui ont les Écritures et qui, en eux-mêmes, sont en dehors de leur degré et de leur mesure, sont hors d'elles. Jésus-Christ est au-dedans, à moins que vous ne soyez des réprouvés. Et là où Jésus-Christ est au-dedans, la parole est là, et Dieu est là. C'est là le grand mystère de la piété. Là où la puissance de Dieu est établie, la croix de Christ est ressentie, car la croix est la puissance de Dieu. Si ce n'est pas le même Christ qui est monté, c'est l'Antichrist, c'est contre lui, et c'est faux. Or des centaines et des milliers rendent témoignage à Christ au-dedans, lui que les apôtres ont prêché, les nombreux ont leur joie et leur récompense, eux qui possèdent ce qu'ils ont longtemps attendu. Tous ceux qui s'élèvent contre Christ au-dedans, et contre Dieu au-dedans, et contre la parole au-dedans, et contre la croix au-dedans, la puissance de Dieu, sont des réprouvés, et sont dans le mystère de la confusion. Principe, l'apôtre a dit à Timothée de prêcher la parole en temps et hors de temps, etc., non pas la révélation directe, page 32. Et le temps viendra où ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais selon leur propre convoitise ils se donneront une foule de docteurs, ayant des oreilles qui démangent, se tournant vers des fables, des révélations directes, page 35. Ainsi ceux qui reconnaissent avoir encore des convoitises sont le sujet de l'Écriture, ceux qui pensent être des saints, mais qui convoitent encore les personnes et les choses, sont ceux qui ne peuvent supporter la saine doctrine, laquelle nous appelle à faire mourir le péché dans nos corps, à dépouiller le vieil homme de péché, à vous dépouiller de votre ancienne nature qui régissait votre conduite. Et qui se corrompt par des convoitises et des désirs nés de l'illusion, laquelle nous appelle à être parfaits comme le Père, à être miséricordieux comme le Père, à être saints. Ceux qui sont encore dans leur péché ont les oreilles qui démangent pour que quelqu'un leur dise qu'ils sont en sécurité, justes, favorisés de Dieu, qu'ils iront au ciel quand ils mourront, malgré le fait qu'ils sont encore captifs du péché et qu'ils vivent dans leur nature pécheresse, charnelle et de la chair. Réponse. Nul ne peut prêcher la parole de vérité, sinon ceux qui la prêchent directement et par l'esprit direct, et qui connaissent des révélations directes. Tous ceux qui sont dans la foi, comme Timothée l'était, sont dans les révélations directes, le don de Dieu. L'apôtre vit que ceux qui ne supporteraient pas la saine doctrine, mais qui se donneraient des docteurs selon leur propre convoitise, seraient des gens cupides, attachés aux choses terrestres, des bêtes mauvaises, qui ne servent pas le Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre ventre. De tel, l'apôtre dit à Timothée et à Tite de les examiner avant qu'ils ne ministèrent, de les éprouver, et de n'imposer les mains à personne à la légère, et de se garder purs, ne préférant l'un à l'autre. Ceux qui sont allés, dans leur propre convoitise se sont amassés des tas de docteurs, ont perdu la révélation directe et la parole directe de Dieu, et se sont égarés loin de la foi qui purifie le cœur et donne la victoire, dans laquelle le peuple a l'unité. Ceux qui maintenant sont tombés dans les convoitises, qui ne peuvent supporter la saine doctrine, qui ont perdu la révélation et le fait de dire la parole directement, ont régné et dominé, de cette génération toi farmé tu es. Et le peuple s'est amassé des docteurs selon ses propres convoitises, et c'est là la cause de toutes les querelles et guerres parmi eux. En niant la révélation directe et la prédication directe de la parole de Dieu, vous, docteurs, vous vous êtes déclarés ouvertement à la nation comme étant les faux prophètes qui n'ont jamais entendu la voix de Dieu, ni la voix de Christ, ni la voix de l'Esprit, ni eu le ministère de l'Esprit, lequel parle tout directement. L'apôtre les vit s'élever avant son départ. C'est pourquoi il chargea Timothée de prêcher la parole en temps et hors de temps, laquelle parole est directe. Ainsi, depuis les jours des apôtres, et de Timothée et de Tite, vous avez régné, et vous vous êtes déguisés en apôtres, en ministres de Christ, et vous avez obtenu la forme, les vêtements de brebis, l'extérieur, mais point de révélation directe, nous vous croyons vraiment que c'est ainsi. Ainsi vous êtes tous des ministres de la lettre dans vos propres convoitises, car la parole de Dieu est directe. Vous ignorez la grâce de Dieu qui est apportée à la révélation de Jésus, et vous ignorez le Fils de Dieu qui révèle le Père, et vous ignorez l'Esprit de Dieu, qui révèle les choses profondes de Dieu aux ministres de l'Esprit. Mais la révélation a cessé, dites-vous, et le reste de votre génération le manifeste. Vous dites qu'ils ont suivi des fables, ayant des oreilles qui démangent. La révélation directe, non, ceux qui se sont écartés de la révélation directe et se sont tournés vers des fables avaient des oreilles qui démangent, comme toute la chrétienté peut en témoigner. Comme ces oreilles qui démangent sont répandues, leurs oreilles sont au dehors, et ils ne peuvent supporter la saine doctrine, et tous sont, intérieurement, ravagés loin de la lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde, par laquelle tout homme pourrait voir l'auteur de sa foi, en laquelle est l'unité. Comment vous vous êtes fractionnés en sectes, en monceaux, et en fables, et en tas de docteurs selon vos propres convoitises, et vous brûlez après eux, et vous avez rompu le mariage avec Christ, et vous êtes prêts à vous brûler et à vous emprisonner les uns les autres au sujet des églises et de l'entretien des ministres, comme toute la chrétienté le montre. Mais je dis qu'il vaut mieux se marier que brûler. Principe, il a dit, que ce Dieu qui est le Créateur est éternellement distinct de toutes les créatures, page 53, que Christ, étant Dieu seulement dans la personne d'un homme, demeure une personne distincte de toutes les créatures et des anges, page 55. Réponse, cela est contraire à l'Écriture. Les corps des saints sont les temples de Dieu, et il habitera en eux, et marchera en eux, et il sera leur Dieu, et ils seront son peuple, et cela est pour ce qui témoigne de la nouvelle alliance, et de « Christ en vous, l'espérance de la gloire, et il est en vous, à moins que vous ne soyez des réprouvés. » Et ceux qui ne mangent pas sa chair et ne boivent pas son sang n'ont pas la vie en eux, et ceux qui mangent sa chair ont sa chair en eux. Et les saints ne sont pas distincts de lui car ils siègent avec lui dans les lieux célestes, et il est en eux et ils sont en lui. Christ en vous le mystère, l'espérance de la gloire, et il est la tête de l'Église et donc non distinct. Principe, il a dit, Dieu est distinct, dans son être et sa béatitude, de toutes les créatures, et que Dieu qui est le Créateur est éternellement distinct de toutes les créatures, page 62, réponse. Dieu est esprit, et il demeure dans ses saints, et les cieux des cieux ne peuvent le contenir, en lui nous vivons, nous nous mouvons et nous avons notre être, lui qui est en tout, par tous et sur tous, Dieu béni à jamais. L'esprit du Père parle dans les saints, et il établit sa demeure avec eux. Les saints ont communion avec le Père et avec le Fils, donc non distincts séparés. Ainsi ceux-ci tiennent le peuple éloigné de l'unité avec Dieu, et hors de sa connaissance, laquelle connaissance de Dieu viendra couvrir la terre comme les eaux couvrent la mer. Tant que quelqu'un est séparé du Seigneur, c'est sa misère, et s'il est distinct de lui, il est dans ses particularités propres, hors de l'Esprit de Dieu, et n'est pas saint. Mais ceux qui viennent à marcher dans l'Esprit ont communion avec lui, vivent en sa présence, voient sa face, contemplent sa gloire, se tiennent dans son conseil, entendent l'instruction, et ils sont un, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous d'un. Ainsi Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, bien que le péché et l'iniquité séparés. Lui qui brise les liens de l'iniquité, et apporte la lumière, la vie et l'immortalité à la lumière par la puissance qui est l'Évangile, par laquelle vient la communion et l'unité avec Dieu, et sa bénédiction et sa béatitude sont ressenties, et ainsi non distincts, car ceux qui ont l'unité avec Dieu ont l'unité avec sa bénédiction, et ceux qui ont communion avec Dieu connaissent sa béatitude. Principe, il a dit, « Si tout homme venant dans le monde a en lui une lumière suffisante pour le conduire au salut, alors il n'y a pas de nécessité absolue d'un sauveur, et c'est faire violence à Christ, page 73-74. » Le problème est que cet homme ne peut croire que la parole au-dedans et la lumière au-dedans est Christ, comme l'Écriture nous le dit. Comme les pharisiens, occupés à enseigner des erreurs, cet homme n'a pas entendu la voix de Dieu ni vu sa forme, et il n'a pas sa parole demeurant en lui, et le Père lui-même, qui m'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa forme. Et vous n'avez pas sa parole demeurant en vous, Jean 5, 37, 38. Or si, comme l'Écriture nous le dit, Dieu et Christ demeurent dans un homme, bien sûr Christ peut nous conduire au salut. Et sur quoi préféreriez-vous compter pour guide et pour maître, un livre, ou un Dieu vivant, tout-puissant, parfait, miséricordieux, omniscient, qui promet de nous conduire dans toute la vérité, de nous enseigner toutes choses, de nous montrer le chemin, de nous guider, de nous faire voir avec ses yeux, mais pour être instruits, nous devons l'approcher humblement comme des pécheurs et garder le silence afin de pouvoir écouter et entendre. Dieu ne nous enseigne pas à partir d'un livre, l'homme enseigne ainsi. Dieu nous enseigne par révélation, par sa parole et sa lumière dans nos cœurs, car ce qu'on peut connaître de Dieu est révélé en eux, Dieu le leur a fait connaître. Romains 1, 19. Et oui, au terme de votre cheminement vers Dieu, il vous montrera l'accomplissement des Écritures notées, montrées, non décrire, non vous les lire, non vous en parler, montrées, et alors vous comprendrez pleinement les Écritures ainsi que les mystères de la piété. Réponse, tout homme a une lumière venant de Christ, le Sauveur de l'âme, par qui le monde fut fait avant qu'il fût fait, et nul ne voit le Sauveur sinon par la lumière qui vient de lui. Nul ne voit l'offrande, ni le sang de l'offrande, sinon par la lumière qui vient de lui, et le sang du second Adam, le Seigneur venu du ciel. Tous ceux qui nient la lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde ne connaissent ni Christ ni le salut. Mais étant éloignés de la lumière, et hors de la lumière dont Christ les a éclairés, ils sont hors de la vérité, comme le diable. Ainsi le diable peut confesser un Christ au dehors comme ils le font, mais non au dedans, nul ne voit le salut, ni le Sauveur Christ Jésus, sinon par la lumière dont il les a éclairés, et elle est au dedans. Principe. Que les saintes Écritures sont la règle pour connaître Dieu. Lire à propos de la nourriture et parler de la nourriture ne remplace pas le fait de manger. Lire à propos de Dieu et parler de Dieu ne vous donne aucune connaissance de Dieu. Vous pouvez penser connaître des mots qui le décrivent, mais tant que vous ne l'avez pas expérimenté, vous ne le connaissez pas, et vous ne comprenez pas non plus véritablement les mots que vous avez lus. La connaissance de Dieu vient par révélation, car ce qu'on peut connaître de Dieu est révélé en eux, Dieu le leur a fait connaître, Romains 1, 19. Et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Matthieu 11, 27, 16, 16, 17, Luc 10, 22, réponse. Les pharisiens avaient les Écritures, mais ne connaissaient pas Dieu, ne connaissaient pas Christ, et nul ne les connaît, sinon ceux qui sont dans la vie dans laquelle étaient ceux qui ont produit les Écritures, par laquelle ils ont appris à connaître Dieu, le Père de la vie, et se sont tenus dans son conseil. Jésus a parlé spécifiquement du problème de ne pas voir Dieu ni entendre Dieu de l'intérieur, et, au lieu de cela, d'enfouir sa tête dans les Écritures, dans Jean 5, 37, 40. Et le Père lui-même, qui m'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa forme, et vous n'avez pas sa parole demeurant en vous, car vous ne croyez pas celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi, afin d'avoir la vie. Venir non pas à des offices de secte, ni à des réunions de prière, ni à des appels à l'autel, mais venir directement à lui, en l'attendant en silence, en écoutant ses commandements et ses enseignements prononcés. Principe. Il a dit, « Chrétien, voudrais-tu une autre justice que celle de Christ opérée en toi ? Je sais que tu le voudrais, et que tu dois l'avoir, si jamais tu es sauvé, tu dois avoir la justice de Christ opérée au-dedans de toi pour ta sanctification, mais t'appuyer sur une autre justice pour ta justification, la justice de Christ hors de toi. » Voyez page 70. Et c'est une opinion blasphématoire et une mare fangeuse que de dire « la justice de Christ au-dedans ». Et je préférerais être papiste que quake. Réponse. La justice au-dedans et la sanctification au-dedans ont été perdues depuis les jours des apôtres, dans l'apostasie, parmi vous et les papistes, et ceux qui témoignent d'une justice au-dedans, d'une sanctification au-dedans, ne sont pas dans l'opinion blasphématoire, à fouiller une mare boueuse. Et je sais que vous préférez vous tourner vers les papistes plutôt que vers les Quakers, parce qu'ils étaient votre racine d'où vous êtes sortis, les papistes, eux qui les premiers se sont écartés de la foi, et ont ainsi perdu la justice au-dedans, et la justification et la sanctification. Je dis que nul ne vient à témoigner du salut et à être sauvé, sinon ceux qui témoignent de Christ au-dedans, de leur sanctification, et de leur justification, et de leur rédemption, les autres sont des réprouvés. Tous sur la terre qui peuvent parler d'une justice hors d'eux, et d'une sanctification et d'une justification hors d'eux, et d'un Christ hors d'eux, et non au-dedans d'eux sont des réprouvés, car Christ est la justice de Dieu, et la sanctification, et la justification de l'homme hors de la loi et de ses œuvres, lui qui se tient entre Dieu et l'homme. Ainsi il est la rédemption, qui rachète l'homme de la chute dans laquelle il est tombé, et il le sanctifie, et il le justifie, et tout cela se trouve au-dedans, et si cela ne se trouve pas au-dedans, il est réprouvé. Et ainsi nul n'est sauvé sinon ceux qui en témoignent au-dedans. Ils ont la lettre, les loups, les vêtements de brebis, ceux qui intérieurement t'ont ravagé loin de l'Esprit de Dieu, et ce sont eux qui le nient au-dedans. Continuez vers les réfutations suivantes. Le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, laquelle conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.